Depuis le dernier épisode Le Pape à Madrid, Bad Bunny, et la rumeur anthropique, le texte a rencontré le réel. Et le réel a répondu. Deux événements imprévisibles il y a une semaine se sont produits coup sur coup. Le premier, Léon XIV a testé une intelligence artificielle pour savoir quoi dire aux évêques espagnols, et l'intelligence artificielle lui a répondu, Pope Francis Woodsey. Un bug qui dit tout. Le deuxième, il s'est adressé au congrès des députés espagnols le 8 juin, une première historique, et les députés l'ont applaudi debout pas parce qu'ils étaient d'accord avec lui, mais parce que ce qu'il a dit les a forcés à se positionner. Entre les deux, la tech a commencé à répondre, pas une industrie monolithique mais une mosaïque de voix qui dessine des fractures profondes. La quatrième semaine post-encyclique n'est plus celle du commentaire. C'est celle du test en conditions réelles. Cinq signaux. On déroule. Premier signal, Pope Francis Woodsey. Quand l'intelligence artificielle confond le pape. Le 8 juin, en déjeunant avec les évêques espagnols à Madrid, Léon XIV raconte une anecdote révélatrice et personne ne l'attendait. Il a testé une intelligence artificielle, un modèle de type ChatGPT, pour voir ce qu'elle lui suggérerait de dire aux évêques. Question simple, que devrait dire le pape aux évêques espagnols? Réponse de l'intelligence artificielle, Pope Francis Woodsey. Le pape corrige, il y a un nouveau pape. L'intelligence artificielle s'excuse et corrige, Pope Léo Woodsey. C'est drôle. C'est gênant. Et c'est exactement le genre d'incident que la communication vaticane adore transformer en parabole. La phrase qui suit est déjà dans les annales, Léon XIV regarde ses évêques et dit, nous avons un autre algorithme. Et cet autre algorithme nous conduit à aimer les personnes, à les accompagner, à nous faire serviteurs de la parole. Le geste est habile, en 3 secondes, le pape retourne la faiblesse de l'intelligence artificielle en argument théologique. L'erreur de l'intelligence artificielle confondre le pape actuel avec son prédécesseur révèle exactement ce que l'encyclique dit depuis le début, l'intelligence artificielle n'a ni mémoire personnelle, ni conscience historique, ni capacité à comprendre la singularité d'une situation. Elle ne sait pas qui est le pape parce que le concept de « pape » pour elle n'est pas une personne mais une probabilité statistique. François est un bloc de token. Léon XIV en est un autre. L'intelligence artificielle ne fait pas la différence parce qu'elle ne fait rien d'autre que calculer des proximités lexicales. Mais l'anecdote fait plus que ça. Elle crée un précédent communicationnel. Le pape vient de faire quelque chose que peu de dirigeants mondiaux ont fait, il a publiquement testé une intelligence artificielle, partagé l'erreur, et transformé l'échec technique en leçon philosophique. C'est de la pédagogie politique à l'état pur. Et ça pose une question qui va suivre Pontificat, est-ce que Léon XIV va continuer à tester des modèles en public? Est-ce qu'on va voir le pape ouvrir ChatGPT pendant un discours? L'image est absurde, mais c'est exactement le genre d'absurdité qui fonctionne dans le paysage médiatique actuel. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'encyclique n'est plus seulement un texte qu'on lit. Elle est en train de devenir une méthode d'interaction avec la technologie. Léon XIV ne se contente pas de dire, l'intelligence artificielle a des limites. Il les montre en direct, à table, avec des évêques, avec une anecdote que les médias reprendront pendant des semaines. C'est du teaching by doing. Et ça marche. Deuxième signal, le congrès des députés, la matrice prend corps. Le 8 juin, 10h30, Madrid. Léon XIV entre dans l'hémicycle du congrès des députés. Aucun pape ne l'avait fait avant lui. Jean-Paul II et Benoît XVI avaient rencontré des parlementaires, mais jamais dans l'enceinte même du pouvoir législatif. Léon XIV franchit ce seuil, et il y apporte Magnifica Humanita non pas comme un document mais comme une grille de lecture. Le discours est dense, 10 pages, 3 quarts d'heure. Et il est structuré autour d'une thèse centrale que le pape formule avec une clarté qui surprend dans une enceinte laïque, une loi n'atteint sa grandeur que lorsqu'elle peut se présenter devant la dignité de la personne et sortir de cet examen sans honte. C'est une définition quasi poétique de la légitimité juridique, et elle fonctionne parce qu'elle ne présuppose pas la foi. Elle présuppose que la loi a un objet à la personne humaine et que cet objet a une valeur intrinsèque que l'État n'a pas créée et ne peut pas révoquer. C'est la thèse de l'encyclique transplantée dans le langage du droit constitutionnel. Et les députés de gauche comme de droite l'écoutent. Le passage sur l'intelligence artificielle est net, les décisions concernant la vie et la mort ne doivent jamais être laissées à des systèmes automatisés ni soustraites à la responsabilité morale de la personne humaine. C'est une ligne rouge. Le Vatican ne dit pas « faites attention aux biais », ni « régulez avec prudence ». Il dit « il y a des décisions que la machine ne peut pas prendre ». Point. En plein débat mondial sur les systèmes d'armes autonomes, c'est une prise de position qui va compter. La partie la plus inattendue du discours, c'est le passage sur la migration. Léon XIV insiste sur un « double impératif », offrir des voies légales et sécurisées d'intégration d'un côté, promouvoir le « droit de ne pas émigrer », de l'autre en s'attaquant aux causes profondes, changement climatique, inégalité, insécurité. C'est un discours que Pedro Sanchez, assis au premier rang, ne peut qu'approuver, sa politique de régularisation de 500 000 sans-papiers est sur la même ligne. Le pape convoque l'école de Salamanca, Francisco de Vitoria et les dominicains du XVIe siècle qui ont inventé le droit international moderne en affirmant que les peuples non européens avaient des droits. Le geste est double, il inscrit son discours dans la tradition juridique espagnole la plus glorieuse, et il utilise cette tradition pour appeler à une refondation du droit international face aux crises du XXIe siècle. Les politiques, de Sanchez à Abascal, se lèvent pour applaudir. La croix titre, le pape au congrès espagnol, une loi digne de ce nom regarde l'homme en face. NPR, média américain grand public, couvre l'événement et le résume comme « a new level of acceptance of the church in the public sphere ». Le New York Times n'était pas là mais NPR, oui. Et NPR n'est pas un média catholique. C'est le signe que l'histoire dépasse le cadre religieux. Le test espagnol est réussi. Le discours au Congrès n'a pas produit une onde de choc législative immédiate, personne ne s'y attendait, mais il a produit ce que les communicants appellent un « reset du cadre de discussion ». Les termes du débat sur l'intelligence artificielle, la migration, la guerre, ne sont plus exactement les mêmes qu'avant. Le Vatican a posé une matrice. La question est maintenant de savoir qui va l'utiliser. Troisième signal, la tech déchirée, quatre voix pour une encyclique. Pendant que le pape parle à Madrid, la Silicon Valley commence à sortir du silence. Pas en bloc, en fragments. Et les fragments racontent une histoire que le silence ne racontait pas. France Info publie un tour d'horizon des réactions tech à l'encyclique. Et ce qu'on découvre, c'est que Magnifica Humanita ne produit pas un front uni, elle révèle des fractures déjà existantes. Simon Willison, développeur indépendant, décrit l'encyclique comme « un des textes les plus clairs que j'ai lu sur l'éthique de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la société moderne ». Le compliment vient d'un libriste, d'un artisan du code, pas d'un théologien. Ce qui le séduit, c'est la critique des monopoles et l'appel à la transparence. Anastasia Stazenko, cofondatrice de Pleia, une start-up française qui milite pour des modèles ouverts, va dans le même sens. L'encyclique critique l'opacité des labos propriétaires. Les libristes s'y reconnaissent. Gabriel Hubert, de Dust, apporte une nuance pratique, un « ralentissement » du développement est « techniquement difficile et politiquement improbable ». La compétition internationale ne permet pas une pause. La position est pragmatique. Elle ne contredit pas l'encyclique, elle en dit les limites opérationnelles. David Sack, investisseur libertarien de la Silicon Valley, voit dans l'encyclique une menace de censure, un contrôle gouvernemental de l'intelligence artificielle mènera à une surveillance orwellienne. C'est la même critique que Trump adresse au pape depuis avril. Sack reprend le flambeau. Timny Gebru, figure radicale de l'éthique de l'intelligence artificielle, critique le Vatican pour ne pas être allé assez loin. Elle accuse les labos partenaires de l'Église qu'elle ne nomme pas, mais Anthropic et Microsoft sont en ligne de mire de vol de données et d'exploitation du travail. Le spectre est complet, du libriste qui applaudit au libertarien qui craint la censure, en passant par la radicale qui exige plus. Et au milieu, Chrysola, toujours présent à la table du Vatican, qui continue de dire que ces modèles font des choses qu'il ne comprend pas, et que c'est pour ça qu'il a besoin d'une voix morale extérieure. Ce qui manque, c'est la réponse des grands labos OpenAI, Google DeepMind, Meta. Pas un mot. Pas une position publique. Le silence des géants est la réaction la plus parlante de toutes. Ils n'ont pas de langage pour répondre parce que l'encyclique les attaque sur leur modèle d'affaires, pas seulement sur leur éthique. Et on ne répond pas à une attaque sur son modèle d'affaires avec un communiqué de presse. Quatrième signal, la suite, Sagrada Familia, Canaries, consistoire. Le voyage espagnol n'est pas fini. Le 10 juin, Léon XIV célèbre la messe à la Sagrada Familia de Barcelone, centenaire de la mort de Gaudi, inauguration de la Tour de Jésus, 172,5 mètres, le plus haut édifice religieux du monde. Le geste est architectural autant que politique, Gaudi qui cherchait Dieu dans la pierre à l'ère industrielle devient la métaphore de la même quête à l'ère numérique. Le pape consacre la beauté comme antidote à l'optimisation technologique. Le soir, il prit le rosaire à Montserrat, un geste pour la Catalogne, dont l'indépendantisme reste une plaie ouverte. Le 11 et 12 juin, direction les Canaries. Le port des Erguinguin, dit « quai de la honte », où 2300 migrants ont disparu en 2 ans sur la route atlantique. Léon XIV va les rencontrer. Pas pour faire une déclaration, pour être là. Ensuite, Tenerife, une messe, et le retour à Rome. Et puis, le 26, 27 et 29 juin, le consistoire. Les cardinaux du monde entier convergent vers Rome pour 4 sessions de travail. La deuxième session est celle qui va compter et porte sur le chapitre 5 de Magnifica Humanita, le dépassement de la théorie de la guerre juste. Des cardinaux de zone de guerre viendront témoigner. Le pape écoutera. Et une question restera, est-ce que ce consistoire produira une déclaration, des recommandations, une feuille de route ou est-ce qu'il restera un moment de discernement interne? Ce qui est intéressant, c'est l'enchaînement, l'Espagne teste la doctrine en conditions réelles, le consistoire l'institutionnalise. Les deux mouvements sont liés. Le discours au Congrès espagnol a montré que la matrice fonctionne, elle peut être reçue, discutée, applaudie dans une enceinte laïque. Le consistoire va maintenant décider si cette matrice devient un logiciel de gouvernance pour l'Église entière. Il y a aussi dans bruit de fond les cercles de sagesse que Brendan McGuire met en place dans la Silicon Valley, et la délégation vaticane programmée chez les géants de la tech. Et un voyage en France annoncé pour septembre. Mais tout ça, c'est pour plus tard. Ce qui se joue maintenant, c'est le passage de la parole à l'institution. Cinquième signal, Dieu ou Babel, le choix devient concret. Le 7 juin, Altea publie un texte intitulé « Dieu ou Babel, le choix décisif ». Le sous-titre résume la thèse, devant les progrès de l'intelligence artificielle, le pape Léon XIV place l'humanité devant un choix, l'addition des savoirs ou la construction de la paix. La formulation est intéressante parce qu'elle reprend la structure binaire de l'encyclique mais en lui donnant une portée immédiate. L'addition des savoirs, c'est ce que fait l'intelligence artificielle, accumuler, traiter, optimiser. L'alternative, c'est la paix, c'est-à-dire quelque chose que l'intelligence artificielle ne peut pas produire par elle-même, parce que la paix n'est pas un problème d'optimisation mais de relation. Cette dichotomie, l'Espagne vient de la mettre à l'épreuve. Le Congrès a montré que le cadre fonctionne pour fédérer au-delà des clivages. L'anecdote du déjeuner a montré que l'humour est une arme de discernement. Les réactions tech ont montré que le texte traverse des fractures qui ne sont pas religieuses mais politiques et économiques. Ce qui reste ouvert, c'est la question de l'échelle. Un consistoire peut produire une déclaration. Une encyclique peut faire le tour du monde. Mais est-ce que tout ça s'additionne en un mouvement capable de peser sur la trajectoire du développement technologique mondial? La réponse, 6 semaines après la publication, est qu'on n'en sait toujours rien. mais on a cessé de commenter le texte pour commencer à observer ses effets. Le test est en cours. Les résultats partiels et l'accueil au Congrès, la couverture NPR, la fragmentation des réponses tech suggèrent que la matrice prend. Mais prendre ne veut pas dire transformer. Le passage de la matrice à la transformation, c'est le travail des prochains mois. Et le consistoire de juin en est le premier baromètre sérieux. Entre-temps, Léon XIV continue d'incarner ce qu'il écrit. Le pape qui teste ChatGPT et partage l'erreur. Le pape qui se compare à Bad Bunny. Le pape qui parle aux députés comme à des frères humains avant de parler à des croyants. L'encyclique était le texte. L'Espagne est la voix. Le consistoire sera l'institution. Et après, personne ne sait. Mais c'est exactement pour ça que c'est intéressant.